RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Kinshasa.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Retour à la une de votre journal sur la rencontre entre la MONUSCO et l'AFC M23 à Goma.
La délégation de la mission onusienne en RDC menée par sa chef en personne, Bintou Keïta, s'est entretenue avec les deux leaders du groupe soutenu par le Rwanda, Corné Nanga et Bertrand Bissimwa. Elle doit bientôt présenter, Bintou Keïta, ses conclusions sur la situation dans l'Est devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce journal également, les recherches qui se poursuivent dans la province congolaise de l'Équateur après le naufrage de trois pirogues sur le lac Tumba. Un dernier bilan provisoire fait état d'au moins 52 morts. L'analyse d'un chercheur également sur l'annonce de la Chine qui entend lever tous les droits de douane sur les produits en provenance de 20 pays africains supplémentaires. Et puis l'actualité, c'est aussi à l'international ce samedi. Pluie de missiles iraniens sur Jérusalem et Tel Aviv cette nuit. Téhéran riposte à l'attaque israélienne qui a fait 78 morts et des centaines de blessés. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, appelle à une désescalade immédiate. RFI repasse en édition spéciale entre 7h10 et 7h30, temps universel. Vous suivez l'évolution de la situation en live sur notre site internet rfi.fr. Une délégation de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo a échangé hier pendant de longues heures avec des responsables de l'AFC M23 à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, que contrôle depuis fin janvier le groupe politico-armé. Et à la tête de cette équipe onusienne, sa chef, Bintou Keïta, elle qui doit prochainement faire un nouveau point sur la situation auprès du Conseil de sécurité à New York. Mais pour l'heure, François Mazé, très peu d'informations ont filtré à l'issue de ces discussions.
Arrivée la veille à Goma, la délégation de la MONUSCO menée par Bintou Keïta a passé la quasi-totalité de la journée avec celle de l'AFC M23. Face à la représentante d'Antonio Guterres, le coordonnateur du groupe Corné Nanga et le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimwa. Dans un post lacunaire sur les réseaux sociaux, la MONUSCO a expliqué que la réunion avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la protection des civils. À la sortie des discussions devant la presse, Bintou Keïta a dit le minimum, expliquant qu'elle présente très prochainement ses conclusions au Conseil de sécurité.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise.
Selon un cadre de l'AFC M23 joint par RFI, cette prise de contact a permis aux deux parties d'apprendre à se connaître. En mars, Corné Nanga avait déjà reçu Bruno Le Marquis, le numéro 2 de la MONUSCO.
François Mazé, l'Est de la République démocratique du Congo, où la mission de la communauté de développement d'Afrique australe s'est arrêtée en mars dernier après la mort de 17 de ses soldats lors d'affrontements entre M23 et armée congolaise et ses alliés. Parmi les victimes, des Sud-Africains. Eh bien, sachez qu'hier, un premier contingent de 249 militaires sud-africains est arrivé à Pretoria. Le ministre sud-africain de la Défense, Angie Motshekga, affirme que l'armée travaille sans relâche aux côtés de ses homologues régionaux pour achever le retrait des troupes et du matériel de la SAMI-RDC dans l'est du pays. La RDC encore et la province de l'Équateur en deuil. Mercredi, en fin de journée, trois embarcations ont chaviré sur le lac Tumba dans le sud de la province. Il y aurait désormais au moins 52 personnes décédées selon un bilan provisoire communiqué par la coordination provinciale du panel des experts de la société civile de l'Équateur. Mais ce bilan reste provisoire puisque les opérations de secours sont toujours en cours et que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. RFI Kinshasa, Pauline Azidi.
Les trois pirogues avaient été affrétées par une famille pour ramener dans le village d'Ikoko Bogonda le corps d'une femme décédée au centre de santé de Bikoro. D'autres passagers se sont alors joints à ce convoi funéraire, notamment des enfants qui rentraient chez eux pour les grandes vacances. Mais vers 16h, d'importantes vagues et des coups de vent ont fait chavirer les trois embarcations. populations qui n'avaient pas de gilet de sauvetage à leur bord. Le bilan est difficile à établir. Une quarantaine de corps ont déjà été repêchés selon les autorités de la province. Une trentaine de rescapés secourus, mais il y a encore beaucoup de disparus. Selon les témoignages, il y avait entre 100 et 200 personnes sur ces bateaux qui n'avaient pas de liste de passagers à jour. Sur place, les opérations pour retrouver des victimes se poursuivent. Certains des passagers ont pu se réfugier sur des petits îlots, confie un membre des équipes de secours, qui ajoute néanmoins manquer d'embarcations pour pouvoir aller les chercher. À l'Assemblée nationale, le député de l'Équateur, Christophe Boulou, a évoqué une tragédie et a réclamé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Un bilan, là aussi, encore provisoire en Afrique du Sud après les inondations meurtrières qui ont touché la province du Cap-Oriental. Le dernier bilan en date fait état d'au moins 78 morts suite à des pluies torrentielles qui ont précédé un froid glacial dans l'est du pays. Hier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place au chevet des sinistrés. Les recherches des secouristes se poursuivent également, alors que des milliers d'habitations, d'écoles et de dispensaires ont été ensevelis sous la boue en début de semaine. C'est un geste perçu comme historique par beaucoup, mais l'est-il vraiment pour les nouveaux pays africains qui vont en bénéficier? Jeudi, à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique Afrique-Chine, Pékin a annoncé son ambition de supprimer les droits de douane pour 20 pays africains supplémentaires, portant ainsi leur nombre à 53, 33 pays étant déjà concernés par cette mesure. Pékin qui, d'Afrique, importe essentiellement des matières premières qui ont une faible valeur ajoutée, ce qui laisse dire à Thierry Perrault, chercheur et spécialiste de la présence chinoise en Afrique, qu'il s'agit là plus de géopolitique que d'économie.
Personnellement, je considère que c'est un acte politique. C'est un effet d'annonce, un très bel effet d'annonce, qui va, dirons-nous, entre autres à l'encontre des déclarations de Donald Trump. Et je pense que l'élément le plus important, c'est beaucoup plus dans cet affrontement entre la Chine et les États-Unis. Très objectivement, ça fait 3% du commerce de la Chine, toute l'Afrique. Ce qui fait que finalement, c'est sur une portion très minime que les choses peuvent jouer. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça va forcément favoriser les ventes de produits africains à destination de la Chine. Que l'on regarde le cuivre, que l'on regarde les matières premières plus rares ou que l'on regarde le pétrole, la Chine s'est créée une palette de fournisseurs et parmi ces fournisseurs, les pays africains comptent très peu. Et dans la mesure où ces achats chinois de matières premières ne sont pas décidés par les pays africains mais par la Chine, il est évident que les pays africains pourront très difficilement utiliser l'occasion qui semblerait s'offrir à eux.
Thierry Perrault, chercheur et spécialiste de la présence chinoise en Afrique, il était joint par Alexis Bédu. Une plainte contre X déposée en France auprès du tribunal judiciaire de Paris. Ousmane Dilo, le frère de Yaya Dilo, l'avait annoncé, il est passé à l'acte. Plainte pour assassinat et complicité d'assassinat impliquant au moins un ressortissant français. Pour rappel, l'opposant tchadien Yaya Dilo avait été tué en février 2024 lors de l'assaut du siège de son parti, le PSF, Parti Socialiste Sans Frontières, par l'armée. Je vous propose d'écouter Charles-Stéphane Marchiani, avocat d'Ousmane Dilo, qui pointe l'inertie des autorités tchadiennes.
Aucune enquête n'a été menée. Le ministre de la Justice tchadien a dit qu'il n'y aurait pas d'investigation particulière. Monsieur Yaya Dilo est mort par balle. À la suite de son décès, contrairement à tous les usages internationaux, il n'y a eu aucune autopsie. Il a été directement enterré et le gouvernement tchadien s'est refusé à toute autopsie. Moins de 48 heures après, l'immeuble du Parti Socialiste Sans Frontières, où l'assaut avait été donné et où monsieur Yaya Dilo a trouvé la mort, a été purement et simplement rasé par les autorités tchadiennes. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître la scène de crime. Effectivement, pour mener une enquête ensuite, c'est très difficile d'aboutir. Il y a des éléments qui aujourd'hui ne sont pas connus des victimes et pourront être portés à la connaissance du procureur de la République de Paris si celui-ci ouvrait une enquête et utilisait les prérogatives qui sont les siennes, notamment en matière de droit de communication.
Charles-Stéphane Marchiani, avocat d'Ousmane Dilo, le frère de Yaya Dilo, au micro de Clotilde Hazard. Il l'avait déjà annoncé, il le reconfirme. Non, Patrice Talon ne sera pas candidat à la présidentielle en 2026. Le président béninois quittera le pouvoir à la fin de ses deux mandats, comme le veut la Constitution. Le chef de l'État s'est exprimé hier devant l'ensemble des maires et des préfets du pays au palais présidentiel de la Marina, à Cotonou. Je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main, a-t-il lancé lors de ce discours. Clap de fin hier sur la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan et à l'heure où la biodiversité marine a été défendue à Nice, dans le sud de la France, c'est l'inquiétude qui règne dans le nord de Madagascar où un cargo a échoué aux alentours de la ville de Diego Suarez. Tombé en panne dimanche dernier, le navire a dérivé jusqu'à une barrière de corail qui encercle la mer d'Émeraude. Depuis, les autorités se veulent rassurantes et écartent tout risque de pollution. Pourtant, des traces de fioul ont été découvertes sur un îlot voisin, Guillaume Fabry.
Une patinoire visqueuse dégageant une forte odeur de fioul. C'est ce qu'ont découvert des pêcheurs et des touristes sur l'une des plages de l'îlot Nossi Suarez, au lendemain de l'échouage du cargo Amaury, à quelques centaines de mètres de là. Cette pollution aux hydrocarbures, attestée par de nombreux témoignages et photographies recueillies par RFI, est cependant démentie par le ministère de l'Environnement et les autorités maritimes, qui assurent qu'aucune fuite n'a été constatée sur ce navire transportant du riz et du ciment. Par précaution, les 20 tonnes de fioul lourd contenues dans ces cuves ont tout de même commencé à être vidées dans des bidons. Le cargo, sous pavillon malgache, long d'une centaine de mètres, doit ensuite être dégagé grâce à deux bateaux de pêche chinois basés au port de Diego Suarez, sans qu'une date n'ait encore été fixée. Des tortues aux poissons tropicaux, les eaux turquoises de la mer d'Émeraude abritent une biodiversité exceptionnelle. Le site fait vivre le secteur du tourisme ainsi que des communautés de pêcheurs qui ont entrepris de retirer elles-mêmes à partir d'aujourd'hui les couches d'hydrocarbures présentes sur l'îlot Nossi Suarez. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
RFI qui revient ce matin sur la mort de Sonny Laboutansi. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 14 juin 1995 à Brazzaville. Il avait vu le jour en 1947 en République démocratique du Congo, alors Congo belge. Romancier, poète, éditorialiste et écrivain, réputé sur le continent autant qu'à l'international. Il a laissé derrière lui un héritage impérissable. Catherine Fruchon-Toussaint.
Sonny Laboutansi, c'est une œuvre, mais aussi un grand éclat de rire. Joyeux, caustique, voire tranchant, l'écrivain avait choisi de dire la gravité du monde à contre-pied. La scène est son premier laboratoire d'expression dans les années 70, à la fois comme auteur, avec des pièces au titre surprenant, Conscience de tracteur ou encore Je sous-signais cardiaque, mais aussi comme directeur de la troupe Rokado Zulu Théâtre, dont le succès dépasse vite les frontières. Sonny Laboutansi se lance aussi dans le roman, et en 1979, à l'âge de 32 ans, il publie La vie et demie, chronique effrayante et sanguinaire d'un pays fictif du continent. Cinq fictions suivront, dont L'État honteux en 1983, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Reconnaissable entre toutes, son écriture baroque et foisonnante bouscule la langue française en la nourrissant des traditions et légendes bantoues de son enfance. Les dernières années de sa vie, il s'engage en politique à Brazzaville, mais il est contaminé par le sida et quelques jours après sa femme, également malade, il décède à 48 ans, en plein vol.
Catherine Fruchon Toussaint. Et on va plus loin ce matin sur la vie et l'œuvre de Sonny Laboutansi avec notre invité Xavier Garnier, professeur de littérature française et francophone à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Il est au micro de Laurent Corot. Ce sera dans un peu plus d'une heure. Je vous repasse la main, Julien Coquelrouen.
Merci Nemo en peace. RFI matin, la suite c'était